Il y a près de 70 ans, invité à parler à Cologne sur le chrétien dans le monde moderne, le grand théologien Karl Rahner avait dit en préambule « Mon sentiment est ce que je vais vous dire est en soi très proche de la vérité. Autrement, je ne le dirai pas. » Mais faut-il le dire hic et nunc? Est-ce opportun? Ne vaudrait-il pas mieux dire autre chose qui soit également vraie, mais qui réponde mieux aux besoins actuels? Invité à parler à la fin de ce colloque, je dois dire que j'ai trouvé un peu de réconfort dans cette parole de Rahner. Je voudrais vous dire avec la même simplicité, je crois que ce que je vais dire est vrai, mais quant à savoir si c'est vraiment ce qu'il faut dire maintenant, je m'en remets à votre discernement. Dans l'intitulé de cette intervention, pour une Église fidèle à l'avenir, certains auront reconnu un thème cher à Yves Congar. Dans une très belle page de vraies et fausses réformes dans l'Église, vous l'avez peut-être sous les yeux, il y a cette invitation à réfléchir à deux types de fidélité. Le père Congar écrit « La fidélité à la réalité chrétienne peut être une fidélité à l'état actuellement atteint, aux formes actuellement tenues de cette réalité, bref, une fidélité à son présent. Elle peut être aussi une fidélité à son avenir, ou aussi bien une fidélité à son principe, les deux revenant au même. La fidélité qui fait face à cette dimension non plus plate, mais en profondeur du christianisme, est donc à la fois une fidélité au principe, à la tradition, et une fidélité à l'avenir, à ce que peut et doit devenir le christianisme, pour gagner toute la vérité donnée au départ, en substance, dans son principe. La fidélité catholique, c'est-à-dire la fidélité selon le tout, devra comporter les deux. Alors je voudrais placer ce que je vais dire sous la sagesse de cet appel à être fidèle selon le tout, que je vais commenter dans un instant. Mais je voudrais situer tout de suite cette intervention dans la lumière de ce deuxième texte qui est également sur votre feuille et qui devra l'accompagner. L'œuvre qui s'impose à nous aujourd'hui est à maints égards plus délicate que celle qui s'imposait au temps des Pères, au temps de saint Thomas d'Aquin, ou même au temps de l'humanisme. Elle réclame un ensemble de vertus opposées conduites les unes et les autres à un haut degré d'excellence et s'arc-boutant, pour ainsi dire, les unes sur les autres jusqu'à un extrême degré de tension. Alors, vous savez que ce texte est d'Henri de Lubac, de catholicisme, et son appel à unir des vertus opposées me semble plus actuel que jamais. Je citerai souvent ces deux auteurs, Congar et de Lubac, qui ont eu l'influence que l'on sait sur le Concile, qui nous ont également beaucoup marqués à Thésée, aussi bien par leur érudition, la profondeur de leur pensée, leur amour de l'Église, que par leur amitié et leur témoignage personnel dans les épreuves. Les textes du père Congar sont assez présents à mon esprit à cause du livre. Quant au père de Lubac, sa certitude que seule une pensée paradoxale est apte à rester fidèle à la foi chrétienne était aussi celle de frère Roger. Cela se voit dans les livres de notre fondateur et parfois même dans les titres de ses ouvrages « Vivre l'aujourd'hui de Dieu »,« Dynamique du provisoire »,« Unanimité dans le pluralisme »,« Violence des pacifiques », »,« Vivre l'inespéré »,« Lutte et contemplation ». En 1983, j'accompagnais frère Roger à Rome au moment où le père de Lubac s'y rendait également pour devenir cardinal. Les deux hommes se connaissaient depuis 1942 et ne s'étaient pas revus depuis les années 60. Et ces retrouvailles à la basilique Saint-Pierre, puis au Borgo Santo Spirito, dans la maison mère de la Compagnie de Jésus, restent pour moi un moment de grande lumière. Dans son livre « Images » de l'abbé Bonchanin, le père de Lubac a lui-même décrit sa première rencontre avec frère Roger et frère Max à l'abbaye des Dombes en 1942. Par la suite, Frère Roger a fréquemment rendu visite au père de Lubac à Lyon dans les années 40 et dans les années qui ont suivi, avant qu'ils ne se retrouvent tous les deux ensemble à Rome pour le Concile Vatican II. Comme le père Lou l'a rappelé, frère Roger, frère Max étaient tous les deux présents aux quatre sessions du Concile en tant qu'observateurs. Le père de Lubac a toujours été vénéré, athésé, un peu préoccupé par la tristesse et l'inquiétude qui l'habitaient si fortement dans les années qui ont suivi le Concile, dans l'espoir sans doute un peu naïf de lui apporter quelques nouvelles qui puissent le réjouir. Il m'est arrivé à quelques reprises de lui rendre visite rue de Grenelle, et son accueil était toujours fraternel. Une de mes visites a eu lieu le jour même où Gorbatchev était reçu pour la première fois par Jean-Paul II. Et c'était beau de voir la lumière qu'il y avait ce jour-là sur le visage de l'auteur du drame de l'humanisme athée. Mais commençons notre réflexion et parlons d'abord de cet appel à être fidèle à l'avenir. La fidélité à l'avenir ne se contente pas de la forme actuellement tenue, mais se préoccupe d'où va le christianisme. Ce n'est pas une fidélité plate, disait Conga. Ce n'est pas une fidélité donnée seulement à la forme actuelle des choses. Conga disait « Il faut que ma fidélité assume l'avenir. » En prenant appui sur les origines, bref, il faut qu'elle assume l'épaisseur du temps. C'est une fidélité missionnaire, animée par le désir de rejoindre un monde nouveau, un monde qui a changé, et cela peut supposer un dépassement des limites actuellement atteintes et des formes présentement tenues. Cette fidélité est intrinsèque à l'Église. C'est parce qu'il a voulu vivre cette fidélité que le Concile du Vatican II a été un concile de réforme. Après une longue période pluriséculaire caractérisée par ce que Congar avait appelé un déficit de catholicité, le Concile a renoué avec le grand souffle de catholicité, cette volonté d'exister selon le tout qui correspond à l'identité profonde de l'Église. Il me semble qu'une grande partie du Concile peut se comprendre en ce sens. Aussi, je voudrais, en essayant de répondre à l'invitation qui m'est faite, de dire pourquoi l'appel que nous laisse le Concile est un appel à vivre une catholicité plus pleine, étant entendu que le terme catholique ne peut être une étiquette collée paresseusement sur le front d'un croyant ou d'une confession, mais doit être un appel sollicitant toutes les ressources de notre foi, de notre cœur et de notre intelligence. Si cet appel est actuel, c'est, pour reprendre une autre expression de Congar, parce que l'Église est son avenir autant qu'elle est son passé. Alors, je n'ai pas besoin de donner de plan, je pense que ce que vous avez entre les mains va suffire. Il y a un certain nombre de points qui sont simplement un commentaire sur cet appel à être fidèle à une plus grande catholicité. Et je vais énumérer ces différents domaines, mais d'abord il faut que j'amène un peu le sujet en disant comment on est arrivé là. C'est le père Congar qui a écrit « Ce qui fait la secte, c'est le manque de référence à la totalité ». Cette référence à la totalité n'a pas manqué à Vatican II. Et je dirais volontiers avec Christophe Théobald, aucun concile n'a montré autant d'audace et d'ambition, laissé advenir un consensus parmi ces plus de 2000 prélats venus de tous les continents et les mettre d'accord sur les réponses à donner à quasiment toutes les questions posées à l'Église aux aurores d'un âge nouveau de l'humanité. Il est possible de nommer des domaines précis dans lesquels cette catholicité plus grande est appelée à s'exprimer dans la lumière et dans l'esprit de Vatican II, et je le ferai dans un instant. Mais je ne suis pas sûr que nous serions fidèles au Concile en voulant faire de lui un manuel qu'il suffirait d'interroger pour trouver les réponses toutes faites qui correspondent à nos besoins. Il y aurait même là quelques contradictions avec la pensée du Concile. Je suivrais plutôt l'intuition de Rahner, qui voyait dans la tâche de la préconcile tout à fait autre chose. Il disait « Il faut imiter ce qu'a été le concile lui-même, qui avait accepté avec courage d'aller au-devant d'un avenir inconnu. » Il me semble que depuis le début du christianisme, la catholicité comporte ce consentement à l'inconnu. et que c'est ce consentement qui permet des avancées. C'est un tel consentement qui était demandé à Pierre quand on vint le chercher pour aller chez Corneille, et que se produisit ce qu'il n'avait pas imaginé. L'Esprit était donné aux païens. Il comprit alors que l'Église existerait bien selon la totalité des humains. Elle serait véritablement catholique. On notera ici que c'est l'événement, l'Esprit donné à Corneille, c'est l'événement qui a précédé la conscience réfléchie. C'est l'événement qui a fait relire les Écritures autrement et qui a permis aux apôtres de trouver ce qui était passé jusque-là inaperçu. La méditation du récit de Pierre chez Corneille a poussé un jour le père Congar à poser cette question. Pouvons-nous dire que nous connaîtrons réellement la catholicité de la grâce du Christ et de l'Église tant que nous ne l'aurons pas saisie dans son actualité, en exercice d'assomption dans l'unité des valeurs ou des réalités qui lui avaient d'abord été ou paru étrangères? Il faut voir l'Église dans cet exercice d'assomption de ce qui paraissait au départ, il paraissait étranger, au contraire. Et voici sa réponse, voici la réponse de Congar. On saura vraiment ce que cela veut dire pour l'Évangile d'être prêché à toute créature quand il le sera. La réponse de foi, l'engagement que nous demande le Concile, est sans aucun doute un appel à nous ouvrir à cet avenir largement inconnu et de ne pas douter, de ne pas sous-estimer les moyens et de ne pas sous-employer les ressources qui nous sont données pour aller au-devant de cet avenir. Il me semble que cela ne peut pas se faire sans prendre des risques, sans courage. La convocation du Concile lui-même fut un acte de courage et une prise de risque. A-t-on assez souligné le courage qu'il a fallu au pape Jean XXIII pour se lancer dans cette aventure? On sait, d'après son journal et des confidences de Mgr Capovilla, son secrétaire personnel, que la décision fut prise par Jean XXIII parce qu'il avait puisé, dans sa foi, le courage nécessaire pour surmonter la peur de l'échec et la peur aussi des qu'en dira-t-on. Dans ce souci d'exister selon le tout, le Concile a pris au sérieux l'émergence d'une sensibilité nouvelle. Le Concile n'a pas voulu l'ignorer. Il n'a pas voulu faire comme si cette sensibilité n'existait pas. Pour ne donner qu'un seul exemple, la conscience historique, on le sait, commande la méthode suivie par Dignitatis Humanae, la déclaration de Vatican II sur la liberté religieuse. Il n'y a qu'à lire la première phrase du texte pour s'en rendre compte. La dignité de la personne humaine est en notre temps l'objet d'une conscience toujours plus vive. Le Concile est explicite quant à sa volonté d'inclure cette sensibilité nouvelle dans sa réflexion et sous son influence à modifier ce qui doit l'être. Gaudium et Spes fait de même lorsque cette constitution explique que le genre humain vit aujourd'hui un âge nouveau de son histoire, caractérisé par des changements profonds et rapides. Numéro 4. La conscience d'un monde qui a profondément changé appelle des changements dans l'expression de la doctrine. On ne peut pas réduire ces changements à une opportune accommodation de la parole de Dieu. Mais comme le croyait le père Chenu, il y a le choix que le Concile a fait, d'une théologie concrète et historique dans une Église qui prend conscience de son être en rencontrant un monde nouveau et qui sait mieux interroger ses propres sources à la faveur de cette rencontre. La conscience historique a en effet joué un rôle immense à Vatican II. Deux jésuites américains l'ont mesuré. Le premier, John Courtney Murray, qui a joué le rôle clé que l'on sait dans cette déclaration sur la liberté religieuse, a eu cette remarque plus générale sur l'ensemble du Concile. Le développement de la doctrine est la question sous-jacente à toutes les questions de Vatican II. C'est une citation qui a souvent été reprise de Murray, de John Courtney Murray. « The development of doctrine is the issue underlying all issues. » La question qui est sous-jacente à toutes les questions. Le développement de la doctrine, ce que Congar appelait l'accroissement, correspond à une prise au sérieux de l'histoire. c'est l'histoire, les faits, la configuration nouvelle, l'émergence d'une sensibilité nouvelle et d'attentes nouvelles qui ont poussé le Concile à scruter, comme il dit, la sainte tradition et la doctrine de l'Église, d'où il tire du neuf en constant accord avec le vieux. Le Père Chenu a écrit qu'au Concile, deux évêques sur trois ont pris la parole en assemblée plénière, en motivant leur intervention par l'observation, tantôt craintive, tantôt confiante, d'une mutation générale du monde, qui saisissait en profondeur la condition de l'homme lui-même. L'autre jésuite américain en question, John O'Malley, bien avant son livre sur l'événement Vatican II, avait consacré un article à la question. Dans cet article qui date de 1971 et qui s'intitule « Reform, Historical Consciousness and Vatican II's Aggiornamento », « Réforme, conscience historique et l'aggiornamento de Vatican II », c'est publié dans Theological Studies, la revue des jésuites américains, O'Malley a montré qu'une certaine audace est le fruit d'une conscience historique. C'est-à-dire que la conscience historique fait prendre conscience d'une responsabilité à l'égard de l'avenir et fait prendre conscience également d'une liberté. Non seulement elle autorise la créativité, mais elle l'exige en vue d'une fidélité plus grande au mystère de la foi. Plusieurs décennies avant le Concile, cette conscience historique animait déjà ceux qui allaient être les théologiens les plus influents du Concile. C'est ainsi qu'Henri de Lubac écrivait, en 37 déjà, dans Catholicisme, « La maison que nous avons à construire à notre tour, pour notre compte, car sur ses fondements éternels l'Église est un perpétuel chantier, a depuis l'époque des Pères plusieurs fois changé de style. Et sans nous croire supérieurs à nos Pères, nous avons à lui donner notre style à nous, c'est-à-dire celui qui répond à nos nécessités, à nos problèmes. » Fin de citation. C'est le même Père de Lubac qui, reprenant la formule de Peggy, dénonçait dans Paradoxe ceux qui, parce qu'ils ne sont d'aucun temps, croient qu'ils sont de l'éternité. Vatican II ne nous permet plus de confondre éternité et intemporalité. Approfondissant son identité, l'Église de Vatican II a pris conscience qu'elle existe dans et par l'histoire. Que l'histoire n'est pas pour elle comme un décor qui se déplacerait au fond de la scène sans affecter les personnages, comme cela peut se pratiquer dans les studios de cinéma. C'est le père Congar qui emploie ces images. Et il poursuit en parlant toujours de l'histoire. Elle affecte, d'une certaine manière, qui ne détruit pas l'identité, elle affecte la conservation, la transmission et même ce qui est conservé et transmis. Mounier, à la suite de Peggy, savait qu'en christianisme, le temps n'est pas un support étranger à son contenu. Mais je prendrai encore une dernière image de Congar. À la veille du Concile, il écrivait dans un article intitulé « Comment l'Église doit se renouveler sans cesse ?» Il écrivait « L'histoire humaine est comme la carrière dans laquelle le ministère apostolique doit prendre ses pierres pour construire le temple de Dieu. » Le Concile Aggiornamento, de mise à jour, nous laisse un appel à actualiser l'éternel. Mounier disait déjà « actualiser l'éternel au lieu d'éterniser le provisoire ». Cela suppose une confiance dans la force assimilatrice de la foi chrétienne. C'est cette confiance qu'il nous faut retrouver aujourd'hui, si nous voulons permettre une expression plus ample, plus pleine de la catholicité de l'Église. Henri de Lubac, à la suite de Newman, a admirablement écrit sur cette force assimilatrice de la foi. Il pensait que le développement réel ne peut consister uniquement dans une analyse plus subtile du donné dogmatique. Le développement comporte un apport positif grâce à tous les éléments venus de l'expérience humaine. Ces éléments sont ensuite transformés et recueillis en de nouvelles synthèses. C'est le père de Lubac qui m'a fait connaître cette admirable citation de Jules Monchanin. « Tant que tout l'humain ne sera pas recueilli dans l'Église, l'Église ne sera qu'adolescente. Il faut qu'elle croisse. » Lorsque cette confiance dans la force assimilatrice de la foi fait défaut, lorsque la peur l'emporte, cette peur qui dans la vie des chrétiens est un plus grand mal que le mal, comme l'écrivait saint François de Sales, la peur est un plus grand mal que le mal, alors les chrétiens ne vivent plus de ce souffle de catholicité qui doit les animer. Il se produit ce que Congar a appelé un déficit de catholicité. La réaction de condamnation de ce qui est neuf vient souvent du fait de se sentir dépassé, sans repère. S'il fallait se laisser inspirer aujourd'hui par une attitude humaine face à la nouveauté, je renverrais volontiers vers ce texte que Congar écrivait en 1971. Il adressait à des intellectuels catholiques quelque peu inquiets des évolutions de l'après-concile. La citation est un peu longue, mais le texte mérite d'être connu et pourrait nous inspirer aujourd'hui. Congar écrit « Je veux être ouvert à des problèmes, à des données, à des expériences qui, en un premier temps, me heurtent. Car ce qui est nouveau est toujours d'abord heurtant. Nous nous en apercevons quand on nous met, par exemple, devant une forme entièrement nouvelle d'art ou d'expression. Je m'efforce donc de résister à toute tentation de panique. Et sans perdre mes critères ni mes certitudes, en les appliquant au contraire aux données ou aux questions nouvelles, j'essaye d'opérer les discernements nécessaires. Car très certainement, tout n'est pas à accepter dans ce qui se présente chaque jour. Bien des choses me font souffrir et parfois même m'inquiètent. Mais en opérant les discernements que j'ai dit, je tâche de ne pas me crisper dans mon malaise ou mon inquiétude. Si je me crispais, il me serait très difficile et presque impossible de me retrouver à l'aise dans une église qui présente bien des éléments préoccupants, mais montre aussi d'extraordinaires ressources évangéliques et une générosité dans la recherche. Congar termine, nous sommes devant des problèmes absolument nouveaux, monumentaux, mondiaux, qui se présentent avec un rythme harcelant. Il me semble que l'attitude que décrit Congar dans ce texte correspond au regard que le Concile a voulu poser sur le monde. Nous ne citerons jamais trop souvent le discours prononcé par Jean XXIII à l'ouverture du Concile. Des recherches historiques récentes ont encore mieux mis en évidence l'importance que Jean XXIII attachait à ce discours. Rejetant lui aussi les prophètes de malheur, voulant écouter l'histoire qui est maîtresse de vie, désireux de recueillir tout l'humain et ainsi de renouer avec ce grand souffle de catholicité, le Concile, répondant aux vœux de Jean XXIII, a inauguré un nouveau rapport au monde. Cela constitue un véritable tournant dans l'histoire du christianisme. Rahner ne voyait dans toute l'histoire de l'Église que deux moments comparables, la décision d'aller vers les païens dans les Actes des Apôtres et d'autre part l'audace qu'ont eu les pères en exprimant le christianisme dans les catégories de la civilisation grecque. Le Concile n'a pas oublié que la figure de ce monde passe. Mais le Concile précise, elle passe certes, la figure de ce monde déformé par le péché. Car le Concile veut faire comprendre que c'est ce monde qui est destiné à une transfiguration et non à l'annihilation. En ce sens, il a voulu donner une espérance au monde. Applaudissant ce fait, Congar écrivait dans un texte sur Vatican II « Un des manques de la religion classique a été son absence d'espérance pour le monde comme tel. L'espérance était individuelle, comme les fins dernières, non cosmique, ni sociale, ni historique. La longue histoire de cette lacune est contenue dans cette formule de Congar. Cela avait donné une religion sans monde, à quoi a correspondu un monde sans religion. Plus d'un théologien du Concile a pensé que l'incroyance moderne venait en partie de ce fait. Une religion sans monde. Congar, qui a longuement réfléchi à l'incroyance moderne, disait qu'il existe chez un bon nombre de nos contemporains une impossibilité de croire parce que l'évidence du monde leur paraît plus forte que la lumière du Christ. Il s'agit là, par rapport à d'autres époques, d'un changement de sensibilité considérable. L'évidence du monde ne peut pas être écartée pour nos contemporains. Mais doit-elle l'être ? pour qui veut rester fidèle au christianisme. Ne discerne-t-on pas bien des éléments étrangers au christianisme qui se sont mêlés à lui pour déprécier le monde? Nos Écritures et notre tradition n'autorisent-elles pas une autre approche? Des hommes courageux qui ont ouvert la voie dans laquelle s'est engagé Vatican II ont répondu oui à cette question. Et je reprends ici la citation de Congar, là où je l'ai laissée. Ce n'est qu'en acceptant à fond l'évidence du monde, ses dimensions, son unité, son histoire, ce n'est qu'en y croyant à fond qu'on pourrait, du dedans de tout cela, resituer et refaire apparaître le Christ et Dieu. Je ne vois pas comment nous pourrions être fidèles à Vatican II en oubliant cela. Je suis convaincu pour ma part que ce nouveau regard sur le monde vient d'un approfondissement de la catholicité. Au Concile, la problématique des deux pouvoirs qui avaient dominé pendant 15 siècles a été abandonnée. Ceux qui n'ont vu là qu'une sorte de concession, un effet de mode, n'ont pas compris, me semble-t-il, les véritables fondements christologiques de Gaudium et Spes. L'Église n'est catholique que parce qu'elle est remplie de la catholicité du Christ et celle de son esprit, qui, en s'insinuant dans l'intime des consciences, est capable d'établir la communion entre les choses diverses, les emmenant à l'unité sans leur faire violence. Même après avoir travaillé le thème de la catholicité pendant des décennies, le père Congar avouait dans une humilité qui pourrait servir d'exemple. Il disait « Notre théologie, la mienne en tout cas, est certainement trop timide, notre théologie de la catholicité, est certainement trop timide, pas assez cosmique. » Congar a vu, comme il écrit, qu'on a trop séparé, non trop distingué, mais trop séparé l'Église et le monde. Les deux visent la même chose, mais avec des ressources différentes et à des plans différents. Faire aboutir la création, faire pleinement réussir l'être humain. Il précise encore dans un autre texte, « Église et monde restent distincts, mais l'unité de fin dernière fait qu'en un sens, il y a une seule histoire. Cette unité veut que le principe actif soit le même, ce principe est le Christ. » Congar était conscient que cette nouvelle façon d'envisager les rapports du Christ et du monde, de l'Église et du monde, demanderait un approfondissement qui durerait des années. C'est toute une génération qui est appelée à assimiler ces données, disait-il. Toute une génération. Le père de Lubac ne pensait pas autrement. Il était reconnaissant au Concile d'avoir pénétré sur un terrain relativement neuf où se présentaient toutes sortes de données enchevêtrées. Bref, nous dit de Lubac, sur cette question du rapport Église-monde, le Concile a fait surgir un essaim de questions nouvelles. Il croyait cependant que le Concile en a dit assez pour imprimer une certaine direction à notre activité. Il nous laisse un appel à progresser dans l'axe qu'il nous a indiqué, qui implique justement une pensée paradoxale. Quelques antithèses complémentaires ont été esquissées par Gaudium et Spes, nous faisant comprendre par exemple que la nouvelle création doit être transformée par la croix. Le Concile n'a pas oublié. Nous faisant comprendre en même temps que l'Église est la matrice où commence de s'opérer cette renaissance cosmique. Que la charité et ses œuvres demeureront, c'est Gaudium et Spes 39, et que toute cette création que Dieu a faite pour l'homme sera délivrée de l'esclavage de la vanité. C'est aussi Gaudium et Spes 39. Cela n'empêche pas de dire, avec le père de Lubac, que celui qui reçoit cet enseignement du Concile et se met à réfléchir, voit des questions nouvelles se ramifier en tous sens. Et peut-être nous est-il justement demandé, en cette période pleine d'incertitudes, et afin de vivre cette fidélité ouverte et ouvrante, c'est une belle expression du père Martelet, le Concile nous demande de vivre une fidélité ouverte et ouvrante. Peut-être nous est-il demandé de savoir vivre les questions. C'est ce que conseillait Rilke au jeune poète. Avant de lui livrer cette promesse, peut-être simplement en les vivant, en vivant ces questions, finirez-vous par entrer insensiblement un jour dans les réponses. Un théologien comme Congar a été capable d'entendre cette invitation dans une page admirable alors qu'il avait déjà atteint un âge avancé on trouve ceci. Je me reproche parfois de ne pas assez vivre les questions, de les couper trop vite par des réponses. Dans ces conditions, elles pourraient n'être que des réponses à des questions d'avant-hier ou d'hier, mais peut-être pas d'aujourd'hui ni de demain. Fin de citation. Ces questions nouvelles, même si elles donnent parfois le vertige, peuvent être une invitation à mieux découvrir les richesses du Christ. Peut-être faudrait-il apprendre à voir dans les questions que pose notre temps, comme le disait un autre poète, autant de coups que le monde frappe pour se faire ouvrir l'Évangile à la page qui le concerne. C'est Claudel. C'est à cet indispensable approfondissement christologique que le père de Lubac songeait, quand, se référant à Gaudium et Spes, il écrivait « Lorsque, dans la ligne du Concile, on voudra pousser la réflexion jusqu'au fondement dernier de la doctrine énoncée sur les rapports de l'Église et du monde, c'est bien sur le rapport de l'univers au Christ que devra se concentrer l'attention. » Répétons-le, ce travail est loin d'être achevé. Il n'est lui aussi qu'à son commencement. Congard ne voyait dans Gaudium et Spes qu'une première ébauche. Et dans le même sens, Karl Rahner disait que le Concile n'était que le commencement d'un commencement, ce qui a donné son titre à ce colloque. Tâche qui doit être celle des théologiens, certes, mais pas seulement. Dans mon introduction, j'ai évoqué le petit livre que le père de Lubac a consacré à l'abbé Jules Monchanin. C'est, je crois, un des premiers livres que j'ai lus en entrant dans la communauté de Thésée. Longtemps, je me suis demandé pourquoi, au-delà de l'amitié qui unissait les deux hommes, et au-delà de la question missionnaire et de celle des religions qui ont toujours intéressé le père de Lubac, pourquoi il avait attaché une telle importance, je dirais une importance pour l'Église universelle, à ce que l'abbé Monchanin cherchait à vivre dans une vie de prière, une vie contemplative et cachée en Inde. Je n'ai trouvé la réponse, je crois, qu'en travaillant la pensée du père Congard. Congard a vu comment le juridisme, suite à la réforme grégorienne, était entré dans l'Église, et combien ce juridisme avait déformé de nombreuses réalités de la foi. Congard ne méprisait pas le droit. Il disait même, avec l'humour un peu particulier qu'il pouvait avoir, qu'il faudrait le torturer assez longtemps avant de pouvoir lui faire dire une parole mal sur le droit canon. Faut me torturer longtemps avant que je dise une parole mal sur le droit canon. Mais Congard savait que le mal, il savait qu'il y avait un mal dans l'ecclésiologie, par cette entrée dans la vie de l'Église du juridisme. Et qu'un juridisme solidement installé dans les esprits et dans les pratiques, on n'échappe pas facilement. On souhaiterait à cet égard que tous les étudiants en théologie puissent connaître et méditer son article sur la Denzinger théologie, la théologie que l'on fait avec le manuel Denzinger. Congard et de Lubac ont compris que ce n'est qu'en ressaisissant les réalités de la foi dans une vie de prière, dans une vie mystique, que l'on pourrait restituer le sens véritable de la foi et des pratiques. Par mystique, aucun de ces deux théologiens n'entendait proposer des extases, mais une vie dans le mystère à laquelle l'intelligence est appelée à participer. C'est en tout cas de cette façon que je comprends la portée ultime des réflexions sur Gaudium et Spes que l'on trouve dans le petit livre du père de Lubac, Athéisme et le sens de l'homme, et qui nous sont livrés sous forme de questions. Comment conviendrait-il dans les années à venir, demande le père de Lubac, comment conviendrait-il de donner une suite à Gaudium et Spes en vue d'une eschatologie plus explicite, plus compréhensive et plus rigoureuse? Comment enfin, et cela revient au même, couronner les enseignements moraux de la Constitution par les vues mystiques indispensables à la consommation de la foi? Fin de citation. John O'Malley, dans son livre récent sur le Concile, et plus longuement dans un article particulièrement convaincant paru en 2006, pas tout à fait le même article qui est paru dans les études récemment, mais l'article des études reprenait des éléments. John O'Malley a montré que, par le style qu'il a adopté, le Concile entendait sortir du juridisme. L'abandon du canon comme forme littéraire, qui avait été employée dans presque tous les conciles précédents, est à cet égard significatif. Le Concile n'entendait pas condamner, c'est un fait bien connu qui a été rappelé plusieurs fois pendant ce colloque. Cela a correspondu à une volonté explicite de Jean XXIII qui a voulu un concile pastoral. Ne doit-on pas discerner dans cette volonté, ainsi que dans le fait que l'Église ait choisi de se modeler sur d'autres pratiques et de s'exprimer dans d'autres formes littéraires que celles issues du Sénat romain, une plus grande fidélité à l'Évangile? Le Concile a voulu entamer un dialogue, mais a-t-on assez mesuré ce que signifie un vrai dialogue? Il n'y a pas de dialogue si l'on n'ose pas être soi-même. Mais le père Congar pensait aussi qu'il n'y a pas de dialogue si l'on n'est pas prêt à changer quelque chose dans ses propres pensées en raison de ce que l'autre dit. Congar, échenu, se serait réjoui de la récente déclaration de Benoît XVI aux membres d'instituts séculiers réunis en juillet 2012 à Assise. Le pape leur a déclaré « Grâce aux consacrés, la relation entre l'Église et le monde est vécue sous le signe de la réciprocité. Car ce n'est pas seulement l'Église qui donne au monde, contribuant à rendre plus humains les hommes et leur histoire, mais c'est aussi le monde qui donne à l'Église, de façon qu'elle puisse se comprendre mieux elle-même et mieux vivre sa mission. » Fin de citation. Nous avons certainement à progresser dans l'apprentissage de ce dialogue. Il ne peut se vivre que dans une grande humilité. Je rejoins ce que disait Mgr Delannoy. Le dialogue n'existe pas pour celui qui pense qu'il n'y a pas de question, qui n'ait déjà sa réponse toute faite, et qu'il suffit de chercher sur le rayon ou dans les tiroirs l'article correspondant. Congar, lui, rappelait que parfois, la vraie profondeur spirituelle est du côté de l'esprit qui ne connaît pas la vérité, mais qui cherche, tandis que le superficiel, l'absence d'un engagement spirituel sérieux, se trouve du côté de celui qui s'avance bardé d'une orthodoxie toute faite, pour laquelle toutes les erreurs sont connues et réfutées, toute la vérité connue et formulée. C'est une citation de Congar. Mais il ajoutait à la fin, « Ce petit jeu s'avère vite impossible quand on dialogue avec un homme réel. » Ce qu'a écrit O'Malley sur le style de Vatican II me paraît cohérent avec ce que nous remarquons avec les jeunes qui sont athésés. Lorsqu'ils viennent nous parler, notamment lors de ces entretiens qui se prolongent tard dans l'église après la prière du soir, nous voyons leur attachement à chercher le sens des choses. Or, O'Malley explique dans son article que si les textes de Vatican II sont longs, c'est qu'ils veulent montrer que les vérités de la foi ont un sens. Et le style de ces textes conciliaires traduit la volonté que ces idéaux puissent inspirer une adhésion qui vienne de l'intérieur de l'auditeur, d'une volonté libre, la seule adhésion que Dieu désire véritablement. C'est pourquoi le Concile a refusé le ton de l'intimidation, de l'injonction menaçante. D'autres conciles l'ont fait. Il s'adresse à des frères et à des sœurs. Ces textes évoquent une collaboration, un partenariat, une coopération. Le langage coercitif, le langage de la contrainte, est absent. Bref, un nouveau style se dessine, un mode de présence au monde caractérisé par le respect de l'interlocuteur. Dans son commentaire de Dei Verbum, le père de Lubac a expliqué comment le premier chapitre réduit à néant certaines critiques maintes fois adressées à la foi chrétienne, comme si son objet consistait dans des propositions inintelligibles et comme si le croyant ne les recevait que pour humilier méritoirement sa raison, comme si la révélation n'était pour lui que notification, intimation de croire, provenant d'une autorité arbitraire. Congar, de son côté, a résumé le grand reproche que beaucoup de nos contemporains font au christianisme en ces quelques mots. Le grand reproche est celui d'étouffer la liberté humaine et la valeur créatrice du sujet religieux. Il disait ailleurs du système qui avait précédé Vatican II qu'il manquait de respect pour l'homme. Beaucoup de travail a été fait pour modifier cette perception de la vie dans la foi. Beaucoup reste à faire. Le Concile nous a ouvert une voie par son style, par sa confiance que la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même. C'est le préambule de Dignitatis Humanae. Pour dire les choses autrement, le Concile a, ne serait-ce que par la place qu'il accorde à la conscience de chacun, indiqué une autre voie que celle du paternalisme. Congar disait « Il y a paternalisme quand on traite les subordonnés comme des enfants dont on doit prendre soin, pour leur bien, sans qu'eux-mêmes aient à décider, à prendre en main leur sort. » Congar attribuait l'existence de ce paternalisme à un arrière-fond de monothéisme atrinitaire ou insuffisamment trinitaire. Je signale ce point car il apporte un éclairage très important pour comprendre ce qui s'est passé à Vatican II. Le changement de ton, de style, qu'O'Malley a si bien décrit dans ses travaux et qui exprime le respect pour l'homme dont nous avons parlé, relève non pas d'une accommodation au monde, ni à une forme de concession au goût du jour, mais à une fidélité plus grande au Dieu trinitaire. Mon compatriote, je suis Canadien d'origine, Charles Taylor, a admirablement parlé de l'ambivalence du monde moderne. Le siècle qui a produit Amnesty International et Médecins sans frontières est également celui qui a généré Auschwitz et Hiroshima. Comme aucun autre, le XXe siècle a exprimé l'ambivalence de la liberté humaine. Et cette ambivalence a certainement par moments de quoi nous effrayer. Mais le Concile a pensé que la peur n'était pas l'unique possibilité. Il a refusé d'envisager le rapport Église-monde comme devant être forcément celui d'un affrontement ou d'un rapport hostile ou antagoniste. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y aura jamais d'affrontement, ni qu'il n'y aura aucune critique à faire. C'est plutôt une manière de regarder le monde avant que ne surgisse un contentieux toujours possible. Dans certaines réalités du monde moderne, l'Église reconnaît comme un rejeton, une réalité qu'elle a contribué à engendrer, même si la nouvelle pousse ne soupçonne pas son origine. Je pense par exemple à la conception de la personne, au fait que chacun est unique, irremplaçable. Beaucoup de nos contemporains partagent cette idée. Chacun est unique, irremplaçable. De nombreux penseurs ont retracé l'origine de cette conviction à notre théologie de la Trinité. Mais nous le savons bien, il y a d'autres cas de figure où l'Église se trouve devant une réalité vraiment nouvelle. Elle doit découvrir alors comment accompagner cette nouveauté. Son accompagnement devra parfois se faire critique, mais en s'assurant d'abord que cette critique n'émane pas d'une simple peur de l'inconnu, ou parce qu'elle se sent dépassée par un monde nouveau qui a d'autres repères. Nous savons trop bien ce que cela a donné dans l'histoire. Et nous devons être conscients qu'aucune critique venant des chrétiens ne tombe sur un terrain vierge. Nous ne pouvons pas oublier que la société moderne s'est sentie obligée de chercher en dehors du christianisme le type d'homme dont elle avait besoin. De nos jours, nous devrions, me semble-t-il, ne pas être aveugles aux nouvelles valeurs cachées dans cette culture à la liberté ambivalente. Cela dit, la critique est souvent nécessaire, car l'Église discerne dans l'exercice de la liberté des enjeux véritables pour l'humain, pour son présent et pour son avenir. Si un dialogue critique s'engage, ce n'est pas pour être anti-moderne, mais pour faire découvrir peut-être qu'il est possible d'être moderne autrement, comme l'a si bien dit Don Guylain Lafond. Si l'Église se fait critique, c'est aussi, pour reprendre une autre expression du même auteur, c'est parce qu'il existe des interdits créateurs qui doivent être rappelés. Il faudrait savoir parler positivement de certains renoncements, non pas pour s'opposer à la culture de l'authenticité et de l'épanouissement de soi, mais pour tenter de montrer que la pleine réalisation de soi, loin d'exclure les exigences morales qui transcendent le moi, les requiert en vérité. Taylor, que je viens de citer, propose qu'on se situe ainsi en dialoguant avec la culture d'authenticité et son idéal. C'est-à-dire que la critique, se situant à l'intérieur de cet idéal, peut s'en servir comme point d'appui. Ce n'est pas sans rappeler Lacordaire, qui lui aussi avait scruté les requêtes de son temps. Il avait aimé son époque et son idéal de liberté. Et il croyait, Lacordaire, qu'il y a toujours dans le cœur de l'homme, dans l'état des esprits, dans le cours de l'opinion, dans les lois, les choses et les temps, un point d'appui pour Dieu. Il pensait que le discernement de ce point d'appui relève du grand art. À sa manière, il manifestait une confiance dans la force assimilatrice de la foi. Pour Taylor, engager correctement le débat suppose de comprendre ce que la culture moderne a de grand, aussi bien que ce qu'elle a de dangereux et de superficiel. Sans sous-estimer le rôle de la réflexion, car la contribution des chrétiens dans ce domaine compte également, Notre expérience à Thésée est tout de même que beaucoup s'ouvrent à une vie plus authentique, plus vraie, plus cohérente, parce qu'ils ont rencontré des personnes, des communautés qui vivent une exigence et qui osent la proposer dans un climat de joie et de confiance. C'est souvent par la porte de l'espérance que l'on accède aujourd'hui à celle de l'exigence. Le Concile lui-même affirme « Ce qui contribue le plus à révéler la présence de Dieu, c'est l'amour fraternel des fidèles qui travaillent d'un cœur unanime pour la foi de l'Évangile et qui se présentent comme un signe d'unité. » Gaudium et Spes 21. Dans un autre domaine, le Concile a choisi de parler positivement de l'unification du monde. Sans doute voyons-nous mieux que les pères du Concile à quel point le monde qui s'unifie, ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque la mondialisation, peut aussi être un lieu de violence. Christophe Théobald l'a rappelé dans un article récemment. Notre discours, notre vigilance et nos actes doivent s'ajuster à cette réalité nouvelle, moins naïf peut-être par rapport à ce qui se passe. Il y a aussi un appel fondamental, et c'est sans doute notre attention, il y a là un appel fondamental, et c'est sans doute notre attention au sort des plus pauvres qui nous préservera de bien des mirages. On peut également penser aux 1000 questions nouvelles qui surgissent et qui vont encore surgir dans l'univers de la bioéthique. Mais malgré tous les déboires et la rude épreuve à laquelle a été soumise notre foi dans ce demi-siècle qui a suivi l'ouverture de Vatican II, ce concile nous fait certainement entendre un appel à ne pas abandonner le monde, à ne pas désespérer de lui, à ne pas penser que son ambivalence le voue à l'échec. À ce monde qui a gardé le sens de la personne, nous avons à témoigner du sens de la résurrection qu'il a perdu. C'est Olivier Clément qui aimait dire cela. Le monde a gardé le sens de la personne. Il faut lui rendre le sens de la résurrection qu'il a perdu. La liturgie chrétienne que nous pouvons prendre comme guide nous encourage en ce sens. Et tout particulièrement les sacrements. On en a parlé à quelques reprises pendant ce colloque. Saint Irénée, qui refusait déjà le dualisme et le pessimisme de son temps, disait « L'Eucharistie confirme notre pensée ». Pensons à ce que nous disons du monde lorsque nous présentons à Dieu le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes. Pensons à ce que deviennent ce pain et ce vin. La liturgie à laquelle le Concile, par son orientation, a voulu être fidèle, nous apprend à nous méfier de ces spiritualités qui tournent le dos au monde et ne lui assigne aucun avenir. Dans une conférence faite à Prague en 1967, c'est encore le père Congar qui a rappelé que le christianisme ancien a plus lutté contre ceux qui niaient le monde et la chair que contre ceux qui niaient Dieu. Je vais dire quelques mots du tournant subjectif de la culture. Est-ce qu'il nous éloigne réellement de celui qui a voulu poser la question à ses disciples, « Qui suis-je pour vous ?» Il attendait une réponse, qui vienne vraiment des personnes qu'il avait en face de lui. On a reconnu une physionomie personnaliste à Dei Verbum, c'est le père de Lubac qui le dit. Nous le savons, la dimension personnelle de la foi a été une question et un problème depuis la Réforme, précisément parce que cet aspect était très présent dans le protestantisme. Alors, on s'est cru obligé de prendre le contre-pied. Et cela a conduit à négliger des pans entiers de la grande tradition de l'Église, notamment son attention à la dimension personnelle. Ça fait partie de notre tradition. Là aussi, il faut constater un manque de catholicité. Et on comprend mieux ce que Congar écrivait en 1937. Ce que nous faisons contre quelqu'un, même contre l'erreur, pour autant, nous ne le faisons pas tout à fait catholiquement. Et c'est pourquoi une dizaine d'années après le Concile, il se sentait autorisé à dire, en commentant les réformes du Concile, les réformes liturgiques du Concile Vatican II, que l'Église est réjouie des protestants en donnant plus de place à la parole de Dieu dans ses célébrations. Cela ne peut scandaliser que ceux qui identifieraient catholicisme et antiprotestantisme, comme il a existé des protestants dont la race heureusement s'éteint, pour identifier anticatholicisme et vrai christianisme. Fin de citation. Avant de dire quelques mots sur l'écuménisme, je voudrais encore ajouter une remarque sur la liturgie. Cette remarque est en rapport avec ce qui vient d'être dit du tournant subjectif de la culture et a trait également aux réformes liturgiques. En 67, Congar écrit « Tout le sens de la rénovation liturgique du XXe siècle est de faire que les célébrations ne soient pas une pure cérémonie en soi, mais le culte de quelqu'un. Tout le mouvement actuel vise à réintégrer le sujet dans l'objectivisme dogmatique, sacramentel ou disciplinaire. » Et dans le même texte, il évoque, ça me fait penser un peu à ce que disait Mgr Delannoy tout à l'heure, il évoque le goût actuel de gestes vrais, qui est selon lui l'un des fruits de ce qu'il a appelé la grande chose du monde moderne, c'est-à-dire la découverte du sujet. Il avait écrit une douzaine d'années avant le Concile, dans notre admirable et sainte liturgie catholique, telle qu'elle est bien souvent pratiquée, il existe trop de choses dont le sens originel n'est plus vraiment honoré et qui sont réduites à l'état d'organes témoins, de vestiges ritualisés d'un geste qui, originellement, exprimait la démarche vraie d'un homme ou d'une communauté vivante. Ce qu'il écrivait à cette période au sujet d'un appel irrésistible, il disait il faut aussi savoir le diriger, le mesurer, mais un appel irrésistible à des gestes vrais, accomplis de telle manière qu'ils soient vraiment les gestes de quelqu'un et disent vraiment en principe ce qu'ils veulent dire, cet appel me semble toujours actuel. Et nous trouverions peut-être à l'écouter des pistes pour avancer dans notre façon de penser la liturgie et nos célébrations. La sensibilité contemporaine, en particulier celle des jeunes, elle est tellement éloignée d'époques lointaines ou même récentes. Athésée, frère Roger a voulu tenir compte de cette sensibilité nouvelle dans la liturgie, dans l'ameublement de l'Église, dans la place accordée au silence, dans la parole, la place accordée à la parole prononcée dans un lieu de prière, dans le choix des chants. Aucun de ces choix ne s'est modelé sur le monde présent. Car la liturgie doit aussi nous transformer et nous accorder à la résurrection. Elle doit aussi dilater nos attentes, nous déranger dans notre subjectivisme. Mais en même temps, l'attention pastorale ne cherche pas à heurter la sensibilité. Elle ne veut pas être vecteur de blocage. Elle vise à être comprise. La vérité des gestes en liturgie dépend également de la vérité de notre rapport au monde. Cela surgit dans plusieurs questions, la liturgie et monde. Dans un texte assez peu connu du père de Lubac, qui me semble d'une actualité étonnante et que nous pouvons maintenant lire grâce à la publication de ses œuvres complètes, nous trouvons des remarques qui pourraient nous aider aujourd'hui dans notre discernement. Ce texte s'intitule « Cause interne de l'atténuation et de la disparition du sens du sacré ». Le texte date de 1942. Il était adressé à des aumôniers, à des prêtres, aumôniers de chantier de jeunesse. S'en prenant au dualisme, le père de Lubac écrit « Tout est sacré par destination et doit donc commencer de l'être par participation ». Le même texte contient un passage sur l'abus des dévotions qui pourrait nous aider également dans notre réflexion aujourd'hui. Le père de Lubac voyait le développement de ces dévotions comme la conséquence d'un dualisme peu chrétien, peu conforme à la tradition. Ceux qui prônent un tel dualisme ont poussé les hommes à écarter le surnaturel, c'est-à-dire en pratique tout le sacré. Et je cite ici encore le père de Lubac. Ils ont relégué ce surnaturel dans quelques recoins éloignés où il ne pouvait que demeurer stérile. Ils l'ont exilé dans une province à part, qu'ils nous ont volontiers abandonné, le laissant peu à peu mourir sous notre garde. Donc en liturgie également, c'est un vrai sens de la catholicité, le sens que tout est sacré par destination et tout doit donc commencer à l'être par participation, qui peut aussi nous servir de guide. Quelques remarques encore sur l'écuménisme qui sont également rattachées à la catholicité. Cela a été bien entendu la grande nouveauté de Vatican II, de traiter de la question écuménique non comme un domaine à part, non comme une spécialité, mais comme une question qu'il ne faut pas détacher de celle de la catholicité de l'Église. Le Concile doit cette approche au père Congar qui, le premier, a posé le problème de cette façon dans Chrétiens des Unis en 37. Prendre conscience d'un déficit de catholicité si les chrétiens du Nord ou de l'Est ou du Sud ne sont pas présents avec leurs dons, c'est saisir que l'écuménisme, ce n'est pas une affaire de diplomatie ou de négociation. Il s'agit de chercher ensemble à découvrir le plus totalement possible le visage du Christ. sa volonté pour le monde, pour l'Église, pour la famille humaine tout entière. Si aucune tradition ne peut prétendre tout posséder du Christ, alors nous comprenons que nous avons besoin des uns des autres pour faire briller le visage du Christ pour nos contemporains. Et de ce qui peut surgir de chrétiens qui savent valoriser et mettre en commun leurs dons, le monde a un urgent besoin. Récemment, frère Aloïs, qui a succédé à frère Roger, lançait cet appel à la réconciliation des chrétiens. Comment répondre aux défis de nos sociétés, notamment ceux de la sécularisation et de l'entente entre les cultures, sans réunir les dons de l'Esprit-Saint déposés dans toutes les familles chrétiennes? On voit difficilement comment la formation de nos futurs prêtres serait fidèle au Concile, comment est-ce qu'elle pourrait être fidèle au Concile si elle négligeait la formation œcuménique. L'ignorance de l'autre risque à tout moment de faire ressurgir les caricatures et les images stéréotypées. Si à la fin du Concile, frère Roger a écrit « Dynamique du provisoire », un de ses livres, c'est qu'il craignait que l'immobilisme ne s'installe et que la vague écuménique ne retombe. Il écrivait ça en 66. Je crois qu'il y a peu de gens qui parlaient en 66 de la possibilité que la vague écuménique, on était enthousiaste pour l'écuménique. Frère Roger voyait qu'elle pourrait retomber. Et sa pensée était la suivante, je crois. Si les réponses définitives manquent encore, cherchons des réponses provisoires. Ne restons pas sur place. Ne faisons pas du surplace. Peut-être avons-nous aujourd'hui plus que jamais à entrer dans une dynamique du provisoire. Dans tant de domaines, les réponses définitives nous échappent. Multiplions les occasions d'être ensemble. Multiplions les occasions de nous connaître, de prier ensemble, de travailler ensemble. Portons ensemble ces questions nouvelles. Ne nous résignons pas à la division, au confessionnalisme toujours réducteur de catholicité. Si vous êtes comme moi, vous n'appréciez pas beaucoup ceux qui confondent écuménisme et interreligieux. C'est toujours un peu affligeant quand des chrétiens parlent de ceux de leur propre famille comme s'ils appartenaient à une autre religion. Alors, les quelques mots très brefs que je vais dire maintenant sur les autres religions ne sont pas à rattacher à l'écuménisme, mais une invitation à approfondir le sens de la catholicité dans le dialogue interreligieux. Le Concile a manifesté un respect pour les religions qui est trop peu connu. Sœur Agnès l'a rappelé ce matin. Dans l'opinion publique, je le constate chaque semaine à Thésée, beaucoup pensent encore que dans son enseignement officiel, l'Église est méprisante à l'égard des religions. On ne connaît pas ces textes, Vatican II. Il reste un immense travail d'information à faire dans ce domaine pour faire connaître la pensée du Concile. Cela est d'autant plus important que le message véhiculé de manière consciente par certains médias est que les religions sont par nature source de violence. Certains médias, et non les moindres, font silence sur tout ce qui va dans un autre sens. La rencontre d'Assise, pape Benoît XVI, avec les responsables des religions, j'ai regardé sur le site internet de la BBC World Service, pas une ligne. Ça n'a pas eu lieu. C'est invraisemblable que les religions puissent être source de paix. Nous voyons à tisser des jeunes très marqués par le témoignage de chrétiens capables de tisser des liens de confiance et d'amitié avec des croyants d'autres religions. Car ces chrétiens témoignent d'un christianisme non idéologique. Je ne peux pas m'étendre sur ce point car le temps passe, mais je voudrais au moins rappeler le critère par lequel Karl Rahner distinguait le christianisme du fanatisme ou de l'idéologie même. Du christianisme, il écrit « En vertu même de sa nature, il est porté vers ce qui n'est pas lui, pour s'y accomplir. Il est sûr de se retrouver lui-même dans une telle rencontre et d'accroître ainsi sa propre plénitude. » Fin de citation. Cette disposition, cette certitude d'avoir besoin de l'autre pour être soi-même est tout le contraire d'une suffisance. La suffisance défigure le mystère du Christ. L'incarnation est rencontre. Le Concile nous appelle à être des reflets du Dieu qui n'humilie personne, qui ne regarde personne de haut. Une grande part de ce que je viens d'exprimer en parlant du nouveau rapport au monde, aux autres confessions, religions, manifeste un changement profond dans la façon dont l'Église se situe par rapport à ce qui était autrefois perçu comme étant la non-Église. C'est dont Guy Lalafont qui employait ce terme récemment, en indiquant un travail de réforme commencé à Vatican II et qui est à poursuivre. les institutions ecclésiales et un bon nombre de convictions et d'attitudes chrétiennes se sont autrefois forgées, pour une part, dans une opposition à la non-Église. Et le fait que l'Église soit maintenant capable d'avoir une vision positive du monde, des autres confessions et des religions, appelle des réformes qui doivent, elles aussi, conduire à une catholicité plus grande. Je voudrais, avant de conclure, faire quelques remarques sur un dernier point. Il regarde sans doute plus que les autres points que nous avons abordés jusqu'à présent, la vie ad intra de l'Église. Le mot en question n'est pas dans les textes conciliaires, mais il résume ce qui a certainement été un des points forts de Vatican II, la redécouverte de l'Ecclésia, comme la réalité première et décisive en ecclésiologie, c'est-à-dire l'assemblée des fidèles antérieure à toute distinction entre laïcs et ministres ordonnés, ce qu'on appelle l'Ecclésia. Ce mot qui nous indique un chemin pour avancer dans l'esprit de Vatican II est celui de co-responsabilité. À deux occasions, il a été employé récemment par Benoît XVI, et il me semble être dans le droit fil de ce qui a été voulu par Lumen Gentium et qu'il nous faut poursuivre. Congar trouvait ce mot admirable et il disait « ce besoin de faire ensemble, ce besoin de participer à l'élaboration ou à la maturation de décisions, ce besoin-là finalement est chrétien et il ne doit pas nous prendre au dépourvu, c'est notre tradition même. » Lorsqu'il a été employé pour la première fois par le cardinal Suenens en 68, c'est le titre d'un livre du cardinal Suenens, La co-responsabilité, le mot a été assez mal vu, mais il a été repris, je vous le disais tout à l'heure, deux reprises par Benoît XVI, et le pape a précisé « cela exige un changement de mentalité, concernant particulièrement les laïcs, en ne les considérant plus seulement comme des collaborateurs du clergé, mais en les reconnaissant comme co-responsables de l'être et de l'agir de l'Église, en favorisant la consolidation d'un laïcat mûr et engagé. » Il a repris en août 2012, il a dit « c'est avec l'aide et l'expérience des laïcs que nous serons en mesure de juger plus distinctement et plus exactement en matière spirituelle, aussi bien que temporelle. C'est toute l'Église qui pourra ainsi sortir renforcée par tous ses membres et qui pourra ainsi remplir pour la vie du monde plus efficacement sa mission. » Alors je n'en dis pas plus sur ce point. Je crois que nous pouvons tous voir comment cet appel à la co-responsabilité est riche de promesses. Comme l'a dit le pape, cela exige un changement de mentalité. Il met en cause un certain cléricalisme, mais il ne diminue en rien la valeur du ministère ordonné. Il est temps de conclure. Le père de Lubac a invité un jour ceux qui l'interrogeaient sur le concile à faire cette expérience. Interrogez autour de vous, demandez ce que signifient les deux premiers mots de Lumen Gentium. Le père de Lubac a mené l'expérience et il dit « on m'a fréquemment répondu l'Église ». Or, dit le père de Lubac, je lis « Lumen Gentium cum sit Christus ». Le Christ est la lumière des peuples. C'est bien sûr le Christ et non l'Église qui est présenté comme la Lumen Gentium, la lumière des peuples. Il n'est bien sûr pas faux de dire que Vatican II a été un concile ecclésiologique. Il n'en est pas moins un concile centré sur le Christ, car l'Église n'a rien d'autre à porter, rien d'autre à annoncer que le mystère du Christ. Le 11 septembre 1962, parlant du concile qui allait s'ouvrir un mois plus tard, le pape Jean XXIII avait déclaré « Que peut être un concile ?» sinon le renouvellement de cette rencontre avec le visage de Jésus ressuscité. Monseigneur d'Agens a cité récemment ce texte et il rappelle que l'intention fondamentale de Vatican II n'était pas d'abord de réorganiser l'Église, mais de la renouveler en partant du Christ, de sa révélation, de son mystère, de sa vérité vivante, et de relever ainsi le défi de la foi chrétienne en Dieu dans un monde qui se passe de Dieu. Et le père Martelet a également rappelé que l'aggiornamento du concile est la conversion de toute l'Église au Christ. Mais avant d'ajouter que le concile parle du Christ d'une façon qui lui est spécifique. Le Christ n'est pas d'abord considéré dans le rayonnement de sa gloire, comme le faisaient les conciles orientaux, mais dans la lumière, dans la manière dont il éclaire ce monde où nous vivons. Ses attentes, ses aspirations, son caractère souvent dramatique. Vatican II n'a pas été le nouveau Nicée que Teilhard attendait et qu'il croyait nécessaire pour que le Christ garde en tout la primauté. Teilhard craignait une diminution du Christ, non par rapport à Dieu, comme à Nicée, mais par rapport à l'univers. Il craignait que la conscience chrétienne se laisse intimider au contact d'une culture nouvelle. Or, Paul VI a osé écrire que le Concile Vatican II est même sous certains aspects plus important encore que le Concile de Nicée. L'intimidation que subit la conscience chrétienne de nos jours est peut-être moins par rapport à la science que par rapport à l'expérience du mal radical. Le mal procède toujours par fascination, a écrit un jour le père Valadier, dans un texte qui m'a beaucoup éclairé. Le mal veut toujours faire croire que rien n'est plus grand que lui. Il veut occuper tout le champ et il entend étouffer la louange. D'où cet appel pour que dans les débats qui animent nos sociétés, les croyants soient les ennemis des jugements écrasants, les opposants systématiques aux disciples de la grande lassitude, les contradicteurs des prédicateurs de la mort évoqués par Zarathoustra. De tels contradicteurs, nous pouvons l'être par nos paroles, nos actes, par les risques que nous acceptons de prendre pour l'Évangile, par notre confiance, par notre chant et la louange qui s'élève pour contester la place que le mal réclame, par la saveur christique de nos vies, par les communautés que nous formons qui sont aussi appelées à être des communautés de guérison et de paix. Ce sont peut-être là quelques-uns des ingrédients de cette sainteté à laquelle le Concile appelle tout le peuple de Dieu. Cette sainteté, 40 ans avant le Concile, Teilhard en avait rêvé, évoquant la figure d'un nouveau saint François ou d'un nouveau saint Ignace qui viendrait nous présenter le nouveau genre de vie chrétienne plus mêlé au monde et plus détaché à la foi dont nous avons besoin. En suivant l'orientation donnée par Jean XXIII, le Concile n'a pas écouté les prophètes de malheur. Il a traduit son désir d'être partenaire de ce monde qui se cherche en déclarant: l'Église croit pouvoir largement contribuer à humaniser toujours plus la famille des hommes et son histoire. Il n'a pas été le concile d'un monde finissant. C'est encore Teilhard qui me fait penser à ce mot. Il a écrit: la source de tous les ennuis en ce moment est que les théologiens ne voient pas le monde et l'homme comme il se découvre désormais à nous. Il nous présente un Dieu pour monde fini ou finissant, alors que nous ne saurions plus adorer qu'un Dieu pour monde commençant. Toute rencontre avec le Christ, comme nous le fait si bien comprendre l'évangile de Marc dès son premier verset, est un commencement. Pour avoir permis une rencontre avec un Christ plus grand, jamais rival de sa création, le Concile Vatican II a droit à notre plus grande reconnaissance et peut être véritablement appelé le commencement d'un commencement. Je vous remercie.